Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue. Après 3 jours de voyage en train, ils arrivent enfin à Bergen, capitale des fjords de Norvège. 3 jours à observer les paysages défilés. Des plaines toulousaines aux lacs suédois jusqu'au désert glacé de Norvège. En avril, Camille, Blandine, Maëlle et Matuta, mes collègues de chez Flokeo et Murmuration, sont partis télétravailler 1 mois en Norvège, en train. On a partagé leurs aventures sur nos réseaux sociaux et ça vous a beaucoup plu. Mais surtout, vous avez été très très nombreux à nous poser des questions sur le voyage en train. Alors on s'est dit que le plus simple, ce serait de regrouper toutes vos questions dans un podcast pour tout savoir sur le voyage en train en Europe et le télétravail à l'étranger. Un podcast autant utile pour les voyageurs comme pour les employeurs encore un petit peu frileux à l'idée de laisser leurs salariés télétravailler dans un train et à l'étranger. Alors c'est parti.
Moi, c'est Maël. Du coup, je suis ingénieur pour Murmuration. Donc, je travaille avec des données, choses comme ça, je fais des dashboards, etc.
Moi, je m'appelle Camille, je suis ingénieur chez Murmuration. Globalement, je m'occupe de récupérer des données satellites et d'en faire des études environnementales.
Du coup, je m'appelle Matuta, je suis chargée de développement commercial chez Murmuration et je me charge de trouver de nouveaux territoires ou gestionnaires de territoires qui sont intéressés pour réaliser des études environnementales.
Et moi, du coup, c'est Blandine, je suis responsable événementiel côté Flokeo, donc sur la partie plutôt tourisme durable. Mon but, c'est de mettre en avant des initiatives autour du tourisme durable. Et depuis récemment, j'anime aussi des ateliers sur la sensibilisation au climat, comme la fresque du climat et d'automne.
Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le concept de télétravail ?
Ben, ouais, je pense que ça s'adresse typiquement à nous. On n'a pas encore énormément de... peut-être de vacances où c'est dur de les planifier exactement. Donc là, pouvoir partir et travailler en même temps, c'est vraiment concilier un peu les deux mondes en un. C'est vraiment chouette parce qu'on a quand même l'impression de vraiment voyager parce qu'on a tous les soirs, tous les week-ends disponibles, parce qu'on y allait en train aussi. Donc ça, on y reviendra plus tard. Mais à la fois, on travaille et on gagne notre salaire et on n'a pas à poser de jour non plus. On n'a pas à poser 1 mois de vacances. Donc je pense que ça s'adresse typiquement à des gens comme nous. Quoi.
Et c'est pas trop compliqué de jongler entre... je suis à l'étranger, j'ai envie de découvrir, de voyager et ben, se concentrer pour travailler.
C'est un rythme à trouver, je pense, à chaque fois, selon les destinations. Est-ce qu'il y a un changement, est-ce qu'il y a un décalage horaire ou non? Mais pour l'instant, de notre expérience, on en a fait 2 et on a toujours réussi à trouver le rythme qui correspondait.
C'était où l'année dernière?
On n'était pas tous les 4 ensemble l'année dernière. Maëlle et moi, du coup, on était à Bali. Et vous, Matuta et Camille, vous étiez où?
L'année dernière, on est parti en Grèce. On avait un consortium meeting en Grèce, donc pour le travail. Et on a profité de ce voyage-là pour le prolonger d'un mois et visiter un peu la Grèce. Et d'ailleurs, on est rentré de Grèce en train et en bateau. Et c'est un peu ça qui nous a inspiré pour le voyage en Norvège, je pense.
Et du coup, pourquoi vous avez choisi là, cette année, la Norvège et le train, bien sûr?
Je saurais même pas dire comment on a choisi la Norvège. On était juste tous un peu d'accord, mais je sais même pas comment on s'est mis d'accord sur cette destination. Si quelqu'un a la réponse, je sais même plus comment ça s'est fait.
Ben, je sais pas, ouais.
Je sais que vous parliez des pays nordiques. Moi, personnellement, c'est des voyages que j'envisageais aussi, pas forcément pour un télétravel, mais finalement, ça tombait bien. Et il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation après. Hein. Maëlle, toi, tu connaissais un peu?
Ouais, mais ça me dérangeait clairement pas d'y retourner, au contraire. J'avais trop envie d'y retourner, donc c'était l'occasion aussi.
Vous y êtes allé en train, donc c'était comme tu disais, Camille, par rapport à ce que vous aviez fait l'année dernière au retour de Grèce. Donc là, je vous propose qu'on parle du voyage en train. Comment on fait pour se dire, je vais aller en Norvège en train? Quelles étaient les démarches, les sites sur lesquels vous vous êtes renseigné? Est-ce que, donc là, vous vous avez organisé tout vous-même? Est-ce que aussi, vous savez si c'est possible de passer par une agence qui organise ça pour nous?
C'est beaucoup de travail.
Sans Rome Tourio, je pense qu'on n'aurait pas réussi.
Ouais,
c'est vrai.
C'est un site internet, je ne sais pas si tout le monde connaît. Il s'appelle Rome to Rio. Le tout est
tout en
deux. En deux, oui. Et ça crée des itinéraires. Et on a le choix, il y a des itinéraires en bateau, avion. Mais on a le choix de choisir que du train. Et du coup, c'est ce qui nous a aidé à générer les itinéraires parce qu'on ne pense pas forcément à quelle ville exactement on va traverser en Allemagne, par exemple. On ne se serait jamais dit tout seul, on va faire un stop à Hambourg, Cologne, ou je ne sais plus, même plus ce qu'on a fait.
Vous, c'était quoi l'itinéraire? Tu te rappelles un peu?
On a fait Toulouse-Paris, Paris-Karlsruhe, Karlsruhe-Hambourg, Hambourg-Copenhague, Copenhague...
Göteborg, Oslo, Bergen. Sachant que ça, c'est l'itinéraire de base prévu.
Oui.
En réalité, entre Hambourg et Copenhague, on est passé par deux petites villes danoises inconnues jusque-là. Mais,
parce qu'il y a eu des problèmes, oui.
Parce que, ouais.
On en reparlera tout à l'heure de comment on gère les problèmes, les retards, les annulations.
Oui.
Combien de jours ça vous a pris tout ça?
À organiser ou à faire le voyage?
À organiser aussi, très okay. Bonne question. Les deux du coup.
À organiser, c'était pas mal de repas les soirs après le travail, droite à gauche, où on pouvait pas tout être là à chaque fois. Notamment moi, je sais que les deux premiers, ou le premier, je l'ai raté. Mais ouais, ça s'est fait assez durement. À coup de fichiers partagés, etc.
C'était pas facile.
Changer les trajets.
Faut être organisé, quoi.
Vraiment être organisé. Surtout, on voulait s'arrêter à Copenhague aussi sur le premier trajet pour dormir là-bas, donc il y avait ça organisé aussi, etc.
Parce que c'est impossible de faire tout ce trajet en une journée ou même en un train de nuit.
Non.
Il n'y a pas de train de nuit.
Surtout qu'au total, on avait près de 25 heures de train. Donc, en comptant les transitions plus la journée passée à Copenhague à l'aller, on a mis 3 jours.
Au retour 2 jours.
Et au retour 2 jours parce qu'on a dormi sur place quelque part et on est reparti direct. On a enchaîné au retour.
Et est-ce que vous aviez senti ce trajet comme quand même faisant partie du voyage?
Très clairement, le train fait partie du voyage. On a d'ailleurs trouvé ça étrange, mais on n'a pas trouvé ça long du tout, quoi. On avait tous emmené plein de choses pour s'occuper en se disant « Ouh là là, on a 25 heures de train, ça va être hyper long ». Et en fin de compte, on est arrivé à destination, on n'avait ni sorti la Switch, ni lu nos livres, ni vraiment utilisé nos mots fléchés, enfin toutes les activités qu'on avait prévu de faire, on n'a pas vraiment eu l'occasion de les sortir parce qu'on était principalement en train d'observer le paysage et profiter du moment, quoi.
Et vous avez pu travailler aussi dans le train?
Aussi.
La connexion internet a été... ça va?
La plupart du temps, ça va.
Ça dépendait des trains, quand même. Il faut se préparer à l'éventualité qu'on ne sera peut-être pas connecté, ouais.
On va préparer des tâches qui ne demandent pas trop d'internet.
Oui.
Attendez, il faut donner aux gens envie de partir en train, là.
Oui, mais il faut faire des trucs en ligne, quoi.
La fibre dans le train.
On s'est dit, en arrivant, je me souviens, à Bergen, que si on rentrait maintenant à Toulouse, ce serait OK, puisqu'on avait déjà eu l'impression de voyager.
Ouais. Ah ouais,
ouais. Ouais. Donc ça montre vraiment que tout notre périple, finalement, ça, c'était vraiment un voyage, quoi, en lui-même.
Est-ce que vous aviez senti moins l'envie d'arriver à destination de quand on fait un voyage plus classique, par exemple quand vous étiez à Bali l'année dernière?
Disons qu'on ne pose pas nos fesses dans un moyen de transport, et du coup, peu importe qu'il soit de 4 heures ou de 10 heures, le seul objectif qu'on a, c'est l'arrivée, et du coup, je pense qu'il y a plus cette hâte. Tandis que là, il y avait tellement d'étapes que si, en partant de Toulouse, on pensait déjà à Bergen dans 3 jours, ça aurait été trop compliqué. Donc là, oui, c'est exactement ce que tu dis. On avait le temps et on n'envisageait pas directement l'arrivée. Après, c'est sûr que dans le dernier train, quand ça fait 3 jours, on a hâte. Mais c'est vraiment une vision hyper différente.
Ouais. Ouais, parce qu'on avait vraiment hâte par rapport au fait qu'on était hyper chargé, qu'on était sûrement un peu fatigué, etc., de tout trimballer, de faire les transitions entre les trains. Mais du voyage en lui-même, non, clairement pas, ouais. Presque, on était un peu triste de quitter ce train, surtout que le dernier train était vraiment fabuleux, quoi, vraiment. Mais
en Norvège, Oslo-Bergen.
Ouais, Oslo-Bergen, enfin, on était sans voix, quoi. On était collés à la fenêtre et hallucinant.
Tout à l'heure, tu parlais de Rome to Rio. Pour réserver concrètement, vous avez pris directement, par exemple, de compagnie en compagnie, ou le site, avec le pass Interrail, comment vous êtes débrouillé pour ça, pour la réservation?
Du coup, on a acheté un passe Interrail. En fait, ça paye le billet, il faut juste qu'on réserve les places assises pour certains trains. C'est-à-dire qu'avec le pass Interrail, certains trains, par exemple l'équivalent des TER en France, n'ont pas besoin d'être réservés, donc on monte juste avec le pass Interrail. Et il y a des trains, l'équivalent des TGV, où il faut réserver sa place. Et donc là, il fallait aller sur chaque site, ou alors il y avait aussi... soit tu pouvais le faire via la plateforme Interrail, soit sur chaque site, pour réserver des places assises. Donc ça aussi, c'est un petit travail à faire. Surtout que la plateforme Interrail n'est pas si simple d'utilisation que ça.
Ok, mais du coup, tout par Interrail quand même. Vous aviez pris le pass de combien de jours?
On avait 10 jours au total. On ne les a pas tous utilisés. Mmh. Ouais, à utiliser sur un mois. Et il faut savoir que ce n'est pas des trajets qui sont utilisables dans votre pays d'origine, quoi. Donc nous, en France, là... on ne peut plus les utiliser, il nous reste 2 ou 3 jours, il me semble. Mais du coup, par Interrail, la plupart du temps, parfois, ça n'affichait pas tous les trains disponibles non plus. Donc c'est là où on se rendait sur les sites de chaque compagnie individuellement pour trouver les trains qui existaient et après aller les rechercher manuellement sur Interrail.
C'est un sacré travail.
Oui. C'est pas mal.
Ouais. La question que tout le monde se pose, on dit tout le temps, le train, c'est beaucoup plus cher que l'avion et c'est un des gros freins aux gens de privilégier l'avion en plus du temps de trajet. Vous, est-ce que c'était plus cher, enfin beaucoup plus cher que le trajet en avion si vous avez comparé un peu les prix?
Sans passer par Interrail, totalement. Je pense que ça faisait partie des barrières au moment où on a pris la décision de comment se rendre jusqu'à Bergen. En passant individuellement par chaque compagnie, ça aurait vraiment été très cher. Là, je pense que c'est à peu près équivalent. On ne s'est pas tant renseigné sur les prix en avion, mais d'après une recherche qu'on avait fait rapidement, on est sur quelque chose d'équivalent, puisqu'on s'en est sorti pour 500 € à peu près pour l'aller-retour.
Avec le pass première classe en plus.
Ouais, exactement. Et en avion, les premiers prix des billets étaient aux alentours de 400 €, mais on n'est pas allé jusqu'au détail des bagages, sachant qu'on était chargé, donc ça aurait été vraiment similaire.
Mais c'est à peu près pareil.
Ouais.
Ok. Et donc tout ça, c'est ma foi fort compliqué, peut-être pour des gens qui n'ont pas trop le temps. Est-ce que vous savez s'il y a des agences qui sont spécialisées dans l'organisation de voyages en train?
Finissez-moi.
J'ai vu quelque chose d'une entreprise française qui s'appelle Molo.
Oui.
Mais je ne sais pas s'ils organisent carrément des voyages, juste ils proposent des trajets déjà existants pour aller d'une destination à d'un point A à un point B. Après, je sais pas à quel point ils s'impliquent dans le voyage. Je pense que c'est une plateforme gratuite. Donc,
mais je crois qu'ils proposent surtout des itinéraires. Mais il n'y a pas la Norvège.
Ah.
Il y a Copenhague, mais pas Bergen.
Je sais qu'il existe une agence en France, enfin, sûrement plusieurs, mais je veux dire, j'en connais une. Ils ne sont pas non plus spécialisés dans vous allez faire une longue distance en train et on vous programme tout le trajet, c'est plus quelles sont les destinations accessibles en train depuis chez vous, entre guillemets, facilement, il me semble.
Comment elle s'appelle?
Discovery Train.
Ça peut être cool peut-être dans les cas où il y a des problèmes, comme ça nous est arrivé. Je pense que d'avoir une agence, ça peut être bien pour que tu puisses te trouver une solution et que tu te retrouves pas perdu au fin fond de l'Allemagne à devoir trouver un itinéraire à 3h du matin.
Qu'est-ce que vous avez?
On n'était pas vraiment perdu, mais quand il y a des galères de train et que tous les trains après ils sont planifiés avec des transitions d'une demi-heure parfois, enfin des escales d'une demi-heure ou moins même, ben du coup le moindre décalement potentiellement te casse tout le reste du trajet, donc les 5 trains qui nous restaient.
Et mais tout replanifier un par un.
Ouais.
Et tout repayer.
Alors ça dépend. On a pu se faire rembourser typiquement en France. Il y a un train qu'on a dû acheter parce que, comme expliqué Blandine, on ne pouvait pas avoir plusieurs trains en France avec le pass Interrail, mais celui-là on se l'est fait rembourser et il a changé. Et sinon on doit tous les reprogrammer, ouais, donc faire des recherches dans les trains où on était pour les trains suivants qui arrivent. Donc c'est un peu de rush, mais je trouve qu'on a super bien rebondi, quoi, et on s'en est grave sorti.
C'était là le gros avantage d'Interrail, c'est-à-dire qu'avec n'importe quel autre billet classique, on peut pas changer de train comme ça. Nous, il nous est arrivé d'être sur un quai 5 minutes avant qu'un train qu'on n'avait pas prévu de prendre arrive et nous arrange par rapport à notre trajet, on est juste allé sur l'application, on l'a entré dans l'application et on a pu rentrer dans le train tranquillement. Donc ça, c'était vraiment pratique quand même.
Et du coup, globalement, ce voyage, donc ces 3 jours de voyage, enfin 6 allers-retours, vous les avez ressentis comme plutôt stressants Ou plutôt relaxant, le fait d'être posé dans un train, regarder le paysage, avoir du temps.
Personnellement, je vois une grande différence entre l'aller et le retour, du coup, où on a eu un aller hyper paisible. Certes, on a manqué un train qu'on a dû remplacer par 3 différents, mais dans l'ensemble, ça a été quand même très correct et du coup, vraiment juste du plaisir à regarder les paysages, à voir les paysages évoluer au fur et à mesure de notre ascension vers le nord de l'Europe. Et le retour, vu que ce fameux train qu'on a manqué, c'était le 2e sur toute la liste, ça a été un peu plus de stress et de replanification. Après, on a eu la chance d'être 4, donc forcément, ça aide beaucoup aussi dans l'organisation et le fait de pas se laisser emporter par les émotions, entre guillemets, dans des moments qui peuvent être un peu plus stressants, quoi.
Maintenant, je vous propose qu'on parle de vos ressentis post-voyage, de vos conclusions un petit peu. Donc maintenant, avec du recul, si je devais vous demander vos plus gros points positifs de ce voyage et les points un petit peu plus négatifs, même si on en a déjà parlé là.
Bah moi, je pense que... Du coup, j'étais déjà allé en Norvège, donc je connaissais déjà un peu. Donc ce qui a vraiment différencié ce voyage d'un autre, c'est vraiment la partie train. Et ce que j'en garde... C'est que ben ouais, une grosse partie du stress du retour elle vient du fait qu'on n'avait pas planifié de nuit, alors qu'à l'aller on avait dormi à Paris, première étape, on avait dormi ensuite à Copenhague, une deuxième étape. Là au retour on avait juste dormi dans une gare en fait. Donc la fatigue physique et mentale des deux jours, elle s'accumulait sans pouvoir se déverser dans une nuit quoi. Donc en fait le stress il était en grande partie lié au fait qu'on était fatigué je pense. Mais le gros point positif par contre c'est que ben on finit par arriver à la destination quoi. Ça c'est extraordinaire. On a raté notre deuxième train, bah on est arrivé à Toulouse quand même 2 heures ou 2 heures et demie après, un truc comme ça, ou non, 4 heures. 4 heures après, mais sur un trajet aussi long, c'est rien du tout, quoi. Et il faut juste apprendre à se dire que 4 heures, c'est rien. Et même que apprendre à se dire que 3 jours, c'est rien pour traverser l'Europe. Enfin, des choses comme ça. Je pense que c'est juste une nouvelle manière de réfléchir, et ça, je trouve que c'est incroyable. Parce que je l'aurais pas du tout imaginé comme ça avant qu'on parte. Et maintenant, je me dis que si on peut faire ça et qu'on arrive à prendre le temps de faire ça, on peut vraiment faire, enfin, tout faire, quoi. Changer grave nos habitudes, en fait.
Parce que tous les quatre, vous étiez, avant ce voyage, convaincus du voyage en train, ou vous aviez quelques appréhensions, quelques doutes?
Moi, mes appréhensions, c'était vraiment en lien avec le temps qu'il faut pour préparer le voyage et le temps qu'il faut pour faire le voyage, plus que sur le prix ou sur vraiment la valeur du trajet en train, parce que ça, j'en suis persuadé. Enfin, pour moi, là, on peut plus prendre l'avion, on peut plus... Enfin, il faut vraiment passer à ça, quoi. Et la barrière, notamment... C'est non seulement celle financière dont on parlait tout à l'heure, un peu potentiellement pour certains, mais surtout pour le temps que ça prend. Ça veut dire potentiellement poser plus de jours de congé, ça veut dire le temps d'organisation, etc. Alors qu'un train, un avion, ça se prend en 5 minutes quoi, sur Internet. Et littéralement, après, ça se prend en 1 heure et on arrive à destination quelques heures après. Et c'est du porte-à-porte. Quoi. J'étais convaincu de tout ce qu'il y avait autour et maintenant je suis convaincu de tout ce qu'il y a dedans. Donc énorme point positif pour moi. Ouais.
Et vous, Matuta et Camille, vous l'aviez déjà un petit peu fait avant pour revenir de Grèce. Vous aviez moins d'appréhension peut-être sur ce type de voyage.
Effectivement, quand on est rentré de Grèce, du coup, on avait pris 3 jours pour rentrer de Grèce au lieu de faire 3 heures d'avion. Et on s'est rendu compte que ça se faisait vraiment bien, qu'on ne s'était pas ennuyé du tout pendant le trajet. Ça nous a permis de découvrir Milan en plus sur le trajet, donc vraiment une bonne expérience. Et du coup, toutes les deux, quand on s'est dit qu'on allait faire un télétravel, il n'y avait pas moyen de prendre l'avion, quoi. On était juste convaincus qu'on prendrait le train. Et je pense qu'on l'a un peu amené comme ça, Maëlle et Blandine aussi, en mode, nous, on va prendre le train, vous faites ce que vous voulez. Et puis, en fin de compte, ça ne les a pas du tout rebutés. Et ils se sont dit, OK, ça peut être fun. Et du coup, on est partis tous les quatre dans cette aventure ensemble, quoi.
Et je voulais vous demander aussi, est-ce que vous pensez que le fait de voyager en train, ça peut faciliter la découverte de la culture locale? Vous êtes passé par 4 pays, je pense. Le Danemark, l'Allemagne, la Suède, la France, la Norvège, ça fait 5.
Je pense à partir du moment où on prend des pauses, comme ce qu'on a fait à l'aller à Copenhague, puisque là on avait une journée entière sur place avec Matuta qui a été une super guide parce que tu connaissais déjà. Donc on a vraiment pu rencontrer un peu cette ville en fait et tout ce qui va avec. Dans les autres pays on s'est pas tant arrêté ou alors on n'est pas tant sorti des gares. Mais par exemple, en Allemagne, on a mangé dans le train à plusieurs reprises. Et du coup, ça fait partie de la culture qu'on a découvert des plats locaux parfois étranges. Mais, du coup, alors qu'en avion, si on avait fait Toulouse-Bergen, on n'aurait pas goûté des plats typiques allemands, quoi.
Mais aussi par rapport au voyage en train et la découverte des pays, ce qui m'a marqué, c'est que contrairement à l'avion où tu pars d'un endroit que tu connais et où tu arrives directement, t'es téléporté à ta destination, là du coup on a pu faire le trajet et donc se rendre compte du paysage sur le chemin. C'est-à-dire qu'on peut voir les liens en fait. C'est pas la France d'un côté puis l'Allemagne. En fait, si tu vas au nord de la France et que tu traverses la frontière, il y a pas de différence. Je sais pas comment l'expliquer, mais dans l'architecture, dans les paysages, tu voyais vraiment les liens entre les pays et du coup, tu petit à petit, tu rentrais dans l'ambiance de la destination finale. C'est-à-dire la végétation, elle change, les maisons changent, le temps change. Tu passes pas de 20 degrés à Toulouse à 10 à Bergen, tu fais plein d'étapes avant.
Ça va être fou, ça, à voir.
Ça, c'est hyper intéressant, oui.
C'est hyper beau, ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on efface les frontières, quoi.
On efface les frontières, c'est ça.
C'est hyper humaniste, en fait.
Non, mais tu vois le lien jusqu'à ta destination. Tu comprends, tu te mets plus facilement dans l'ambiance de ta destination. Mm. Et tu comprends l'environnement, en fait. Et tu peux le situer sur une carte aussi. Ce que des fois, je sais pas faire quand je vais dans des endroits en avion.
Exactement. Et ce que tu dis, ça me fait penser à notre dernier trajet Oslo-Bergen, pendant lequel on a vu des paysages, donc hyper enneigés, des sortes de dunes, de glace, moitié neige, qui après nous ont fait dire on va planifier un week-end et retourner voir ces paysages-là, alors qu'en avion, on aurait peut-être juste pas su qu'à une heure de Bergen, il y avait ce genre de paysage, un peu de désert blanc, quoi.
Ouais, mais je voyais les vidéos que vous faisiez, du coup, sur le compte Flokeo, les stories. Ah, c'était beau.
C'est vraiment magnifique.
Je vous invite à aller sur le compte Instagram de Flokeo et du podcast, podcast.vert. On a fait pas mal de réels, pas mal de posts sur ce voyage en train. Comme ça, vous pouvez mettre un petit peu des images sur tout ce dont on a parlé, notamment les paysages. Ça donne vachement envie. Est-ce que pour la fin, vous auriez un message à faire passer? Un truc à rajouter dont on n'aurait pas parlé?
La Norvège, c'est cher.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé.
Non, on a de la chance que ça soit un peu un détail pour nous, même si on a dû clairement faire attention et que ça change complètement nos habitudes, etc. Mais ouais, c'est aussi beau que cher, quoi.
Il y a plein d'autres destinations en Europe accessibles en train.
Ah oui, non, mais clairement, non, Norvège, mais, du coup. Là, on parle vraiment que de Norvège.
Là, quoi. Vous avez choisi le plus cher de ce qui existe.
Une anecdote drôle, c'est que si vous vous embarquez dans une aventure en train et que vous faites beaucoup de train, attendez-vous à ce que votre corps continue de se sentir dans un train quelques heures après le voyage. C'est-à-dire que quand on avait fait une journée entière de train et qu'on allait se coucher le soir, on avait un peu l'impression d'être toujours dans le train. C'est, je sais pas, le mal de train.
Les vertiges.
Ça tangue, ouais.
Ça tangue, ça bouge, ça...
Ouais, le mal de mer.
Le mal de mer version train.
Ouais, mais c'était pas des malaises.
Non, non,
quoi.
C'est juste des vertiges et l'impression d'être dans le train.
C'est trop drôle.
Oui.
Et sensation un peu plus à l'étranger qu'en France, d'ailleurs, on s'est dit, hein.
Mais ça doit dépendre des infrastructures.
Ouais. En France, les trains sont un peu plus stables de notre expérience.
Ah, vous avez vu une différence entre les différents trains? Du coup, chaque pays, vous avez pu comparer les différences de trains?
Ah bah déjà, oui, clairement.
On est en retard sur les premières classes.
Ouais, les premières classes, on en a eu de très très sympathiques, notamment au Danemark, je crois.
Oui.
Où vraiment, c'était la première classe, quoi. Café et biscuits à volonté.
C'est fou. Et tout ça avec le pass Interrail.
Ouais. Une fois qu'on a fait notre premier voyage en train, ce qui nous semble être un truc de ouf, ben en fait, après, ça paraît... C'est largement faisable et il faut juste l'essayer une fois pour s'en rendre compte.
Peut-être faut commencer par des petites destinations.
Ouais, mais tu vois, genre... Enfin, moi, c'est vraiment mon mindset, tu vois. Genre, ça me semblait fou. Et en fait, je l'ai fait et je suis là, ben oui. Pourquoi tu vas aller en Norvège?
Non, mais ouais. Ça va être dur de reprendre l'avion, là.
Bah, pas de reprendre l'avion, mais pour ce genre de distance, oui.
On fera un peu plus attention à ne pas passer une nuit dans un McDo à Hambourg. Mais...
Anecdote,
clairement. Notre trajet a un peu capoté et on a dû passer de minuit à 4h du matin à Hambourg, dans la gare. Et le seul endroit avec de la lumière dans Hambourg, à la gare, à minuit, c'est le McDo. Non, ouais, disons que l'ambiance était folklore dans ce McDo et qu'on est resté là pendant 4 heures à ne rien faire parce qu'on était vraiment fatigués. On s'était levé à 5 heures d'Oslo pour partir et qu'on avait des vertiges, qu'on n'avait pas spécialement envie de manger de la friture. Donc, c'était sympa. On va s'en souvenir très longtemps. C'est assez dur à décrire les sensations et les émotions qu'on avait dans ce moment-là. Mais c'était un petit mélange de stress et de je n'en peux plus-isme. Chose comme
mais après,
ça.
C'est fun à raconter.
Par contre, c'est fun à raconter.
C'est un truc à raconter.
Mais clairement. C'est long. Ça aurait pu être une heure, ça aurait été fun à raconter aussi. 4 heures, c'était long.
Et si c'était à refaire, est-ce que vous avez en tête des idées d'autres destinations en Europe ou pas même?
Ouais, la Corée.
C'est ambitieux.
C'est ambitieux.
Clairement, pour moi, le train, c'est même plus une question quand il s'agit d'aller en Europe. Il y a plein de pays d'Europe qui sont accessibles en moins de 2 jours en train et... Concrètement, mes prochains voyages en Europe, ce sera en train, c'est sûr.
Et est-ce que vous avez des conseils aussi pour les entreprises par rapport au congé? Tout le monde ne peut pas se permettre de passer sur une semaine de congé, 2-3 jours en train, aller-retour, ça fait la semaine, quoi. Est-ce que vous auriez des conseils, je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, pour laisser ses employés quelques jours de plus pour qu'ils puissent voyager en train?
Déjà, le travail dans le train, c'est largement possible. Alors, on ne programme pas forcément des réunions sur ces journées-là. La connexion Internet n'est pas toujours parfaite. Mais déjà, la plupart du temps, le trajet en train est plus long qu'une journée de travail classique, ou du moins un horaire décalé. Donc, si on est parti à 15h et que pendant une heure, on n'avait pas une bonne connexion, c'est pas grave, on peut travailler de 19 à 20, je dis n'importe quoi, mais pour rattraper ces horaires-là. Donc déjà, laisser... dans la mesure du possible, vos employés travailler dans le train, ne pas imposer des jours de congé sur ces jours de trajet-là. Parce qu'en plus, dans le train, ça fait passer le temps de travailler, donc c'est tout bénef.
Pour les métiers qui peuvent faire du télétravail.
Bien sûr.
En plus de ça, on se rend compte, quand on part comme ça un mois à l'étranger, que la motivation pour travailler quand on est dans un endroit qu'on a...
On se sent bien, quoi.
En fait, on se sent hyper bien pendant ce mois de travail, et du coup, on travaille vraiment hyper efficacement. Aussi, peut-être parce qu'on est motivé pour finir notre journée plus tôt, pour aller découvrir l'endroit où on est. Et notre environnement et tout ça. Et donc vraiment, la productivité pendant ce mois de télétravail est vraiment bonne, quoi. Donc, faudrait pas avoir peur de laisser ses employés aller travailler à l'étranger.
Franchement, essayez un premier voyage en train, parce que ça paraît un petit peu insurmontable au début. Il faut beaucoup d'organisation. Et juste penser différemment, c'est pas forcément le premier réflexe qu'on a de se dire qu'on va aller dans tel endroit en train. Mais franchement, essayez, après vous allez voir que c'est largement faisable, que même s'il y a des petites galères, l'arrivée elle se fait pas longtemps après et tout aussi bien. Et c'est même mieux en soi, vous allez voyager vraiment différemment et ça vaut le coup.
C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.